France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Quand l'écriture devient ancrage et lien entre membres d'une même famille, entre deux pays, entre deux époques, c'est ce qui est au cœur du nouveau roman de Leïla Slimani, J'en porterai le feu. Elle sera mon invitée à 13h. Mais d'abord, direction le Japon, avec un débat critique consacré au manga. Au menu, une nouvelle adaptation de Lovecraft, le maître du fantastique par Gou Tanabe, et la réédition d'une série culte, Doro et Doro, par la mangaka Kyu Hayashida. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et bienvenue à nos critiques. Fausto Fasulo, fondateur de la revue Atom et co-directeur artistique du Festival d'Angoulême.
Bonjour.
Pauline Croquet, journaliste au Monde, rubrique Pixel, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Le romancier de l'horreur et du fantastique Lovecraft adorait les chats, mais il faut croire qu'il s'en méfiait aussi. En tout cas, dans sa nouvelle Les chats d'Ultar, parue en 1920, ces félins sont des tueurs redoutables. Et c'est justement un des textes que le mangaka Gou Tanabe a choisi d'adapter pour son nouvel album. Gou Tanabe est fasciné par l'œuvre de Lovecraft. En presque 10 ans, c'est le 13e opus qu'il consacre à l'auteur de l'Appel de Cthulhu. Comment le trait de Gou Tanabe et l'univers cauchemardesque de Lovecraft se marient-ils? On va en parler et on commence d'abord avec un avis rapide, Fausto Fasulo.
Eh bien, c'est absolument dans la continuité de ce que fait Tanabe depuis maintenant plusieurs années. C'est quelqu'un qui effectivement est intrinsèquement lié, organiquement lié, j'ai envie de dire, à l'œuvre de Lovecraft. Il est devenu, malgré lui, l'adaptateur officiel des écrits de Lovecraft. Et ce qui est assez intéressant, et je m'attarderai peut-être pas plus longtemps là-dessus, c'est de savoir que la rencontre entre les deux auteurs a finalement été un peu accidentelle, et que s'il a plongé dans le grand bain Lovecraft, c'est parce qu'on l'a pris par la main pour le pousser. Mm-hmm. Et c'est assez intéressant de voir qu'un auteur qui aujourd'hui a fait de sa vie d'artiste, en fait, a consacré sa vie d'artiste à l'adaptation du travail d'un autre artiste, en fait, y est venu un petit peu par accident, limite forcé.
On va y revenir. Pauline Croquet, un avis rapide.
Alors, c'est un travail remarquable. L'implication de Gou Tanabe est incontestable. Ça, son obsession se note très clairement et elle est magnifique. Par contre, moi, j'ai toujours un peu de mal à rentrer dans ces mangas. Malheureusement, je ne dois pas être assez Lovecraftienne, il faut croire. En tout cas, voilà. Du coup, ça crée un sentiment ambivalent chez moi.
Alors, Fausto Fasulo, organiquement lié à Lovecraft.
Oui, organiquement lié, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui vit, dessine, respire, transpire Lovecraft, littéralement. Il y a une sorte de proximité psychologique, psychique, j'ai envie de dire, qui a fini par se créer entre lui et Lovecraft. Alors quand je disais en préambule qu'il y a été un petit peu malgré lui, c'est son éditeur qui lui a mis des bouquins de Lovecraft entre les mains. On sait que Tanabe a toujours été intéressé par l'Occident, que ce soit d'un point de vue de la littérature ou même plus généralement d'un point de vue artistique. Voilà, c'est effectivement ces grandes références en termes de dessin se situent plutôt du côté des États-Unis ou de l'Europe. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui connaissait très peu, en réalité, le travail de Lovecraft avant de l'adapter. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'initiation progressive à Lovecraft que le lecteur ressent aussi si on s'amuse à remonter le fil et à lire, par exemple, les premières adaptations qu'il a signées. Et on voit aujourd'hui, par exemple, avec Les chats d'Ultar, le chemin parcouru, les difficultés qu'il peut aussi ressentir à se saisir de récits. Là, c'est un tout nouveau cycle. En tout cas, dans l'œuvre de Lovecraft, c'est pas évident à articuler. Hein. le cycle du rêve, en l'occurrence, un nouveau cycle que Gou Tanabe aborde. Et voilà, on ressent et on arrive à identifier aussi ces difficultés d'artiste à tourner la page d'un cycle de Lovecraft, à s'attaquer justement à deux nouvelles mythologies. Et on a vraiment l'impression de grandir d'une certaine manière avec l'auteur. Et ça, c'est assez fascinant de voir comment son regard évolue sur le travail de Lovecraft, comment son dessin évolue, comment il va s'emparer de nouvelles figures, de nouveaux mythes, et avec plus ou moins effectivement de talent. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui est techniquement d'un niveau assez hallucinant, mais on sent parfois qu'il la chope un petit peu, qu'il y a des éléments du récit de Lovecraft qui sont un petit peu difficiles à saisir, puisque c'est quand même pas évident d'adapter Lovecraft. Et on sent que lui, il est là aussi pour combler des zones grises, raconter des choses qui, en fait, dans un récit, étaient une simple phrase et deviennent plusieurs pages dans son manga. Donc on voit tout ça, c'est-à-dire que même si les coulisses ne vampirisent jamais le résultat final, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant à voir un auteur travailler et réfléchir autour de l'œuvre de quelqu'un d'autre.
Alors là, ça s'appelle Les Chats d'Ultar, mais c'est une seule des trois nouvelles, en fait.
Tout à fait, c'est la nouvelle du milieu, en fait. Donc le recueil qui s'appelle donc Les Chats d'Ultar, en fait, est composé de trois nouvelles. La première, c'est Les Faïs, la deuxième, Les Chats d'Ultar, et la dernière, Les Autres Dieux. Donc c'est des nouvelles qui sont absolument indépendantes. Il y a parfois des personnages qui font partie, effectivement, de la mythologie lovecraftienne qu'on croise d'un récit à l'autre. Donc il y a toujours sorte de fil rouge comme ça qui finit par se dessiner, mais on peut en tout cas lire les trois nouvelles de manière absolument indépendante et déconnectée les unes des autres. On peut commencer par Les Chats d'Ultar au milieu si on est très rigoriste et qu'on veut commencer par l'histoire qui donne le titre au recueil, comme on peut commencer effectivement par le début, c'est Les Faïs, ou par la fin aussi, Les Autres Dieux.
Vous voulez une croquer sur le dessin alors de Tanabe?
Alors on est sur un dessin monumental, on l'avait déjà vu à l'œuvre, il était capable de raconter la partie plus cosmique, de la montrer en dessin, la partie la plus cosmique de Lovecraft. Là, on est sur quelque chose de plus resserré, plus intime, plus onirique. On est dans le cycle du rêve. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine rigidité dans le dessin. Alors, à la fois, Gutanabe, c'est quelqu'un qui est très précis, qui est très méticuleux. Donc forcément, on ne va pas avoir quelque chose d'enlevé. C'est quelque chose de calculé. Mais je me dis que peut-être cette rigidité vient peut-être à la fois du fait qu'il me semble que cette nouvelle était l'une des préférées de Lovecraft. Donc il y a quand même un enjeu à l'adapter. Comme tu disais, Fausto, il y a aussi un passage d'un cycle à un autre. Et moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que là où il est très fort, donc dans le côté monumental des décors, de l'architecture, la partie intimiste me paraît un peu rigide. C'est-à-dire, je trouve que ça manque un peu d'aspérité, les personnages. Il a une façon de dessiner les pupilles des yeux qui, moi, me met un peu à distance.
C'est complètement translucide, hein, c'est ça?
Quasiment, et qui me met un petit peu à distance, en fait, des personnages. Et par exemple, les chats, alors il y a des planches absolument magnifiques et assez inquiétantes avec cette nuée de chats qui débarque.
Oui, on peut peut-être raconter un peu l'histoire de cette nouvelle.
Oui, alors en fait, Ultar, c'est une cité où il est interdit de faire du mal aux chats puisqu'on les a sacralisés, mais aussi on connaît le danger potentiel qu'ils peuvent amener. Donc on a peur et on révère les chats. Donc ça fait appel à des mythologies anciennes, hein, notamment. Et à côté de ça, on a un personnage principal qui lui se perd dans un rêve où il fantasme une cité, il cherche à la retrouver. Donc on a l'imbrication de ces deux lieux, il me semble. Voilà, donc peut-être Fausto veut compléter là-dessus, mais
sur la rigidité du dessin, puisque c'est ce que tu évoquais, moi je comprends effectivement que ce soit une barrière, en fait. Il y a une sorte de froideur comme ça qui se dégage, une sorte d'aspect un petit peu mathématique, glacial dans le dessin de Tanabe, et en même temps je trouve que ça participe de l'étrangeté, du côté un petit peu insaisissable, du côté bizarroïde d'une certaine manière. C'est un peu un adjectif fourre-tout, mais bon, allons-y, utilisons-le. Et c'est ce qui rend justement, je trouve, le dessin de Tanabe parfaitement hypnotique. Moi, j'adore les yeux, contrairement à toi. Je trouve qu'il y a une sorte de on a l'impression que les personnages sont à deux doigts d'entrer dans une espèce de transe hallucinée. Et en plus, ça nous fait exactement ressentir cette espèce de spectacle indicible auquel eux assistent, puisque en fait, voilà, on le dit souvent qu'effectivement Lovecraft c'est l'écrivain de l'indicible, c'est-à-dire il n'y aurait pas suffisamment de mots pour décrire ce que peuvent voir les personnages, et ce concept-là, il faut pouvoir le retranscrire en dessin, et il le retranscrit justement à travers les yeux de ces personnages qui sont écarquillés, dans lesquels on a beaucoup de mal effectivement parfois à lire les sentiments ou les émotions. C'est peut-être de là aussi dont vient la froideur dont tu parles.
Oui, et puis les froids chez Lovecraft me paraît aussi parfois venir de l'intérieur. Il y a une intérieur. On est dans le cosmique, mais on est aussi dans l'intérieur chez Lovecraft. On est une forme de personnage. Paranoïa, on est dans les replis de son esprit. C'est un mystère dont on ne fera jamais le tour. Et c'est une interprétation finalement de Lovecraft, excellente et minutieuse. Mais du coup, cet effroi, je ne me sens pas plongée un peu comme Alice au Pays des Merveilles qui serait plongée dans le trou comme ça. Moi, je me sens plutôt un peu derrière la vitre en fait. Et je reconnais effectivement qu'on a ces ambiances inquiétantes, particulières, mais je me sens très mise à distance et c'est ce qui m'embête, alors que j'aimerais qu'on me plonge complètement face à ces monstruosités, face au repli de l'esprit, j'aimerais complètement plonger dedans et je n'y arrive pas. C'est finalement la dernière réticence que j'ai, parce qu'après, sur le papier, Gutanabe, on peut clairement pas reprocher grand-chose à son dessin. Je pense qu'il met au défi beaucoup, beaucoup de dessinateurs. Et puis cette implication, encore une fois, on la ressent, hein, de chaque planche, on sent qu'elle a coûté du travail, de la réflexion, des allers-retours avec soi-même. On sent aussi que parfois il a peut-être pu être piégé, comme Lovecraft a pu être piégé par son œuvre. C'est très intéressant aussi de voir finalement le jeu du chat et de la souris, sans mauvais jeu de mots, entre Gutanabe et Lovecraft. Ça, on le perçoit et c'est aussi intéressant. Mais c'est vrai qu'en tant que juste pour une lecture simple, c'est pas évident en tout cas. Mais c'est une bonne entrée en matière quand même pour Gutanabe. C'est une très bonne entrée en matière quand même pour redécouvrir Lovecraft en tout cas.
Justement, dans Fosso Fasulo, dans le manga, il y a une tradition comme ça d'adaptation de textes romanesques.
Oh, oui, ça remonte à très longtemps. Osamu Tezuka, il avait revisité l'île au trésor de Robert Stevenson en 1947, à travers un manga qui s'appelait La Nouvelle Île au Trésor. Donc en fait, les artistes japonais, les mangakas, se sont toujours intéressés à la littérature occidentale. Alors ça ne veut pas dire que les adaptations sont forcément des best-sellers, mais voilà, il y a toujours eu de toute façon un intérêt pour la littérature occidentale, l'histoire occidentale. Il y a toujours eu ce regard porté depuis l'Orient sur ce que nous on vivait, sur ce qu'on produisait, et ça donne parfois des œuvres qui sont absolument passionnantes parce qu'elles finissent par être métissées, parce qu'elles finissent par être remodelées d'une certaine manière. Et moi je trouve ça assez drôle aujourd'hui, par exemple, que des gens découvrent le travail de Lovecraft à travers la vision d'un auteur japonais. Je trouve ça assez hallucinant en fait que des gens se sont mis à lire des nouvelles de Lovecraft parce que ils ont pu découvrir précédemment les mangas de Tanabe. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Hein. Moi, je connais aussi des gens qui se sont mis à s'intéresser à certaines personnes, à certaines périodes de l'histoire occidentale parce qu'ils l'ont vu raconté dans des mangas.
Mais le regard de Tanabe justement sur Lovecraft, qu'est-ce que ça apporte ? Il a un regard plus particulier ?
Bah déjà, ils se ressemblent un peu, les deux, en fait. C'est-à-dire que, comme on appelait Lovecraft, le reclus de Providence, c'est vrai que Tanabe, c'est quelqu'un qui est plutôt renfermé, qui travaille seul, qui a un rapport très clairement obsessionnel vis-à-vis de son dessin, comme Lovecraft avait un rapport obsessionnel avec l'écriture. Donc les deux, en fait, sont dans une position d'hermétisme, de défi, d'une certaine manière, qui est assez proche et c'est assez drôle. Je pense que la connexion s'est faite aussi pour ça, entre les deux personnalités, parce que Tanabe a fini par comprendre que s'il était en mesure d'adapter Lovecraft, c'était peut-être aussi parce qu'il lui ressemblait un peu.
Alors, c'était donc Les Chats d'Ultard de Gutanabe d'après Lovecraft, évidemment, aux éditions Kiyun,
absolument. Kiyun.
Et il faut préciser qu'il y a une exposition Gutanabe Lovecraft, Vision hallucinée, à partir du 30 janvier jusqu'au 2 février à Angoulême, à l'espace Franquin, à l'occasion évidemment du Festival international de la bande dessinée.
Attention.
C'est le moment de votre coup de cœur, Pauline Croquet, et c'est le manga d'une jeune autrice.
Oui, d'une jeune autrice française même. Imaginez un internat disciplinaire pour jeunes filles situé au milieu de nulle part. Une sirène retentit, une pluie mystérieuse de billes s'abat sur l'établissement. Ces billes sont des organismes à l'apparence de grêlons, dévorant tout sur leur passage. 3 minutes plus tard, une poignée d'élèves a raté l'évacuation et se retrouve enfermée. C'est comme ça que démarre Yon, un manga que Camille Broutin donc, porte en elle depuis son adolescence et dont le décor lui est inspiré par des collèges abandonnés non loin de chez elle. Et le premier tome de ce huis clos est particulièrement réussi selon moi. D'abord sur le plan graphique. Formée dans l'animation, Camille Broutin revendique un style semi-réaliste. Elle s'inspire de cinéastes mangaka comme Satoshi Kon, à qui l'on doit Perfect Blue ou encore Paprika. Son dessin est clair, franc, très fin. Les décors et les perspectives vont à l'essentiel mais parviennent à créer une atmosphère pesante. La poésie des cases qu'elle dessine vue d'en haut est particulièrement intéressante. Côté récit, la dessinatrice centre son histoire autour de Margot, une adolescente qui au premier abord est plutôt marginale et indolente, mais qui se révèle particulièrement futée et réfléchie. Elle est sans conteste la clé de la survie du groupe. Dans Yon, le danger immédiat émane des conflits au sein de ce groupe. La menace extérieure plombe tout le récit, mais n'est visuellement pas vraiment impressionnante. Il n'y a pas de sang, pas de hurlements, juste des petites billes qui avalent tout sur leur passage. Mais aussi des élèves dont l'enfermement ravive des rancœurs et des tensions. Un bouillonnement adolescent au milieu de la désolation. On sent que tout peut dégénérer d'une minute à l'autre, et ça j'adore. La malice de Camille Broutin tient aussi au fait qu'elle prend le contre-pied de certains huis clos adolescents, ou même des récits de survie, dans lesquels généralement les plus faibles sont sacrifiés pour l'intérêt du groupe. Dans Yon, au contraire, aucune des recluses ne doit être exposée, et pour cause. Chaque être dévoré engendre l'expansion de ses grêlons surnaturels, et donc menace le bâtiment tout entier. Donc que vous ayez aimé l'école en portée de Kazuo Umezu, le fameux et qui est souvent cité par les mangaka, Dead Dead Demon Destruction de Inyo Asano, où on a cette menace comme ça pesante sur un climat plutôt quotidien, ou même la série télé Yellow Jacket pour le groupe d'adolescentes recluses, ou simplement si vous êtes amateur de lignes claires, allez jeter un œil à ce manga.
Et donc c'était Yon de Camille Broutin, c'est le premier tome donc, et c'est chez Dargo, merci beaucoup.
今日は最低の日だったな。元気出せよ。うちの食堂でお前の大好きな大梅り餃子作ってやるからさ。On
change alors là totalement d'univers visuel avec Doro et Doro, c'est le titre d'un manga de 12 tomes dont le premier volet est sorti il y a plus de 20 ans au Japon et qui fait l'objet d'une véritable adoration par ses fans, à tel point que les éditions Soleil Manga ont décidé de rééditer l'ensemble de la série. Nous voici donc projetés dans une cité des charges baptisée Hall, trou en fait, au cœur d'un univers post-apocalyptique. Caïman, c'est un humain qu'un mage maléfique a affublé d'une tête de reptile. Il n'a qu'un seul objectif, c'est se venger. C'est noir, c'est violent, c'est sanglant. On commence avec un avis de l'une et de l'autre. D'abord vous, Pauline Croquet.
Alors, autant la rigidité de Gutanabe me met un peu à distance, autant le côté un peu crasseux de Kyuai Yashida dans son manga, ce Mad Max urbain me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup rentrer dans son univers qui est assez bizarroïde. On l'a employé plusieurs fois, mais en tout cas, un univers pour lequel voilà, il faut vraiment plonger et se laisser emporter.
Fausto Fasolo.
Je souriais un peu en entendant votre résumé, parce que c'est vrai que je me remémorais des passages du récit. Et je me disais, oui, c'est vrai que ça parle de ça, un peu que de ça. Et l'histoire est un vrai prétexte justement pour l'autrice à s'amuser, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est de passer énormément de temps à dessiner ses personnages plus que de raconter une histoire. Et c'est aussi, d'une certaine manière, à la fois la force et le défaut du titre, qui est encore une fois parfaitement recommandable et qui jouit d'une aura parfaitement culte, parce que justement, elle a su croquer des personnages qui ne ressemblent à aucun autre.
Alors, Pauline Croquet, il faut plonger dans cet univers, mais c'est quoi son univers alors ?
Alors, cet univers, c'est effectivement, on est surtout porté par des personnages très forts et avec des designs qui sont poussés jusqu'au bout, bien au-delà de la narration, puisqu'en fait, Caïman a reçu un sortilège par un mage, il est amnésique, il recherche sa véritable identité, et il est accompagné de Nikaido, qui est une amie, qui tient un restaurant, il adore les gyoza, donc les raviolis japonais, ce qui fait que...
Voilà, ils sont copains, du coup.
Ils sont
voilà.
Très copains. Et donc, en fait, ce duo fonctionne très bien, parce qu'il ne repose pas sur une tension amoureuse, il ne repose pas sur une amitié complètement profonde. On est à, je crois que Kyuai Yashida les compare à Mulder et Scully, elle s'est inspirée d'eux. Donc c'est un duo qui fonctionne très bien. Et donc c'est Nikaido et Caïman en fait sont à la traque des mages pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Caïman, mais aussi pour porter secours aux autres habitants de Hall qui se retrouvent la cible en fait d'expérimentations très particulières et bizarres de la part des mages qui en fait descendent par des portes dans cette décharge, cette cité décharge, pour pratiquer des expériences magiques et donc transformer les citoyens. Donc ça, on a parfois des gens qui ressemblent à moitié à des insectes. Enfin voilà, ça tourne toujours très très mal. Et c'est le prétexte d'ailleurs pour Kyuai Yashida de dessiner notamment de la chair, des organes, au-delà voilà du design et des vêtements, on a vraiment, elle aime montrer des bouts de chair, des bouts de peau, des organes et de façon très graphique.
Oui, est-ce qu'on peut décrire son style parce qu'il est vraiment effectivement très particulier. Ouais.
On est sur quelque chose que moi, en fait, ces traits ne sont pas des traits francs. Ce sont des successions de tout petits traits fins qui, moi, me laissent penser qu'il y a une forme de fusion entre le crayonné et l'ancrage. Et cette succession de traits comme ça, très très nerveux, génère voilà un dessin beaucoup plus épais. Je trouve ça, on le voit rarement, et je trouve ça assez fabuleux. Moi, c'est ce qui me convainc en premier chez elle, c'est cette façon de poser ses traits.
Vous disiez crasseux, quoi.
Un peu crasseux, oui.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Fausto.
C'est complètement ça. Oui, bah, c'est une dessinatrice. En fait, elle ne dessine que ce qu'elle a envie de dessiner. Et elle se fiche un peu de son histoire. C'est-à-dire que, finalement, les éléments.
Elle tient 12 tomes, quand même.
Elle tient. Mais les éléments qu'elle dessine, en fait, c'est uniquement par pur plaisir, par pur fétichisme, plus que par utilité narrative. Et elle le disait dès le début, moi j'ai pas du tout d'ambition scénaristique avec ce titre, je m'amuse, je dessine ce que j'ai envie de dessiner. Et c'est vrai que Doro et Doro, c'est une sorte de pot-pourri de tout ce qu'elle aime. C'est-à-dire que elle, c'est quelqu'un, effectivement, comme tu le disais, Pauline, qui a un rapport très particulier au dessin, qui a fait les beaux-arts, qui s'amusait déjà dans sa prime jeunesse à dessiner des petits morceaux de chair, tout ça, etc. Donc elle avait quand même ce tropisme pour tout ce qui est lié à la peau, aux organes, tout ça, etc. Ensuite, elle a réfléchi, elle aurait bien aimé peut-être travailler dans le cinéma, travailler dans le domaine des effets spéciaux. Donc, il y a quand même un rapport très... Oui, c'est quelqu'un qui a un rapport très artisanal avec, justement, les matériaux, qui aime mettre les mains dans le cambouis, qui, comme Gutanabe, par ailleurs, travaille toute seule. Mm-hmm. Elle est incapable de déléguer quoi que ce soit. Alors, pour précision et pour les auditrices et les auditeurs qui ne savent peut-être pas comment exactement se passe le travail d'un mangaka, très souvent, les mangakas ont des assistants, en fait, qui s'attellent à des tâches diverses comme l'application des traces, dessiner des décors, dessiner des accessoires. Il y a assez peu, il y en a quand même pas mal, mais il y en a assez peu généralement de mangaka qui arrivent à livrer une série sans avoir recours à des assistants. Et elle, en fait, elle est incapable de déléguer parce qu'elle a envie de tout dessiner, c'est-à-dire d'un gyoza sur une assiette jusqu'à un décor de grand ensemble urbain. En fait, elle a envie de tout maîtriser. Donc il y a cette espèce de démiurgie, on va dire, où elle a absolument envie de tout contrôler, de maîtriser ses personnages. Et parfois, c'est aussi ça qui fait la force du récit, parfois elle oublie un peu le lecteur, je trouve. Mais en même temps, sa grande qualité, c'est sa liberté. C'est se dire, mais moi, en fait, je suis là pour m'éclater. Je suis une dessinatrice qui a envie de vous montrer les personnages qui sortent de mon esprit. Si vous adhérez, tant pis, moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire.
Elle a des cadrages très intéressants, je trouve, aussi.
Oui, elle travaille beaucoup le cadre. Elle va aussi très près de ses personnages. Il y a le travail du corps, où on est très près de la peau, des organes. C'est pas anodin, d'ailleurs, qu'elle ait choisi un caïman aussi. On revient à ce
texture,
travail
de la texture. Ouais, bien sûr.
Elle a aussi elle a une forme de géométrie aussi dans la découpe de ses corps, puisque ça tranche quand même, hein, aussi, il faut le dire. Donc, c'est pas dégoûtant non plus. Il y a quelque chose d'assez... d'assez dynamique, en fait.
Et de joyeux.
Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un
qui... Du massacre joyeux, quoi.
Oui, bien sûr, ouais.
on le reproche pas à certains comme Tarantino, donc oui, pourquoi on lui reproche?
Non, c'est très pop.
Je le reproche pas.
Non, c'est très pop. Non, en plus, c'est vrai que pour le coup, il y a une sorte d'absence de gravité dans la violence. Qui nous fait passer effectivement très bien des scènes qui sont sur le papier extrême. Ouais.
Comment expliquer alors qu'elle ait eu un tel succès, cette série, qu'elle ait rencontré autant de gens qui s'y sont attachés?
Je crois que ça tient, au-delà de la singularité de son dessin, je crois que ça tient à son duo de personnages. C'est un peu comme les séries policières où on est très attaché aux deux héros, même si les enquêtes sont vraiment nulles. Il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que la fonctionnalité entre Caïman et Nikaido, c'est pareil, elle est intéressante parce que quand on la décrit, voilà, c'est une héroïne avec une forte poitrine. On se dirait, tiens, c'est la bimbo qui fait faire valoir. Sauf qu'on la voit graphiquement, c'est pas du tout ça. On est plutôt sur un duo d'adolescents qui étaient malmenés par la vie aussi. Donc ça, je trouve qu'on le retrouve pas tant que ça, en fait, dans des séries. Et puis, tout simplement, ce côté... cette galerie de personnages. Moi, je vois, en fait, elle va s'inspirer à la fois de films, de slasher movies, mais aussi de films comme Alien. Elle adore la série de films Alien. Et derrière, elle va invoquer, par exemple, des designs proches du catch mexicain ou japonais, du théâtre aussi. Comme ça, on a beaucoup de personnages avec des masques. Et elle les dessine, même des personnages secondaires, elle les dessine comme s'ils pouvaient entrer en scène et devenir très importants. En fait, il y a des va-et-vient permanents de personnages. Et c'est très intéressant. C'est vrai que l'histoire, elle est pas... On ne retient pas ce manga du tout pour l'histoire, mais ce foisonnement de personnages, on le retrouve chez d'autres mangaka aussi, mais il est vraiment très particulier chez elle, et surtout dans le post-apocalyptique, parce que souvent on retrouve des gens avec des costumes, une sobriété assez forte, et elle arrive toujours à trouver, à avoir un twist derrière, très intéressant en fait, graphique. Et c'est pareil, Kaïma, on n'en a pas parlé, mais il est quand même... À l'intérieur de sa gueule,
il y a
un personnage. Donc on imagine être l'humain d'origine, puisque Caïman, il a été transformé par des mages. Et donc en fait, il dévore ses ennemis par la tête, il les attrape par la tête pour provoquer un dialogue et essayer de les interroger. Ça, c'est quand même... voilà, tous ces concepts, cet enchaînement de concepts est vraiment particulier, quoi.
Fausto Fasulo ?
Oui, c'est les personnages, je pense. Si y a un tel attachement à la série, c'est les personnages. Mais le manga est un médium de personnages, de toute façon. Si vous interrogez des lecteurs assidus, ils vont plus retenir des personnages plutôt que les histoires. Mmh. Et elle, je pense que d'une certaine manière, elle l'a compris, même si elle le fait de manière, comme je le disais, très spontanée. Et c'est vrai que ces personnages sont immédiatement iconiques. C'est-à-dire, au bout de la deuxième page, en fait, vous avez très envie de les recroiser plus tard. Et en plus, elle joue sur une espèce de frustration, comme tu disais, Pauline, c'est que parfois, elle nous présente un personnage qui a un design absolument somptueux. En plus, on voit qu'il y a quand même une véritable réflexion aussi autour des costumes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je pense, regarde beaucoup du côté de la mode aussi pour pouvoir habiller ses personnages. Et parfois, on les voit, et c'est limite de la, un peu comme de la figuration dans un film, quoi. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est incroyablement bien designé, qui passe dans une case, et puis on le retrouve bien plus tard après. Et donc, on est toujours un peu frustré, on se dit, mais qui est ce type avec un masque d'enfer ou un blouson en cuir avec des pics que je trouvais absolument incroyable, et il faut être patient pour pouvoir le recroiser. Et ça, c'est assez marrant aussi de jouer sur cette frustration-là, quoi.
Effectivement, on voit l'influence du cinéma. Vous avez cité Mad Max, vous citez Alien, c'est très présent quand même.
Ah oui, et puis je pense qu'elle adore aussi, le travail de Giger, donc qui était l'artiste qui avait effectivement signé le design de l'Alien.
Ouais.
Voilà, donc tout cet aspect organique, c'est la deuxième fois que je le dis à cette table, du dessin de Giger, on le ressent chez elle, quoi. C'est-à-dire ces espèces de peaux surtendues, cette espèce de voilà de tension artérielle qu'on arrive à constamment ressentir, c'est quelque chose qui transpire de son dessin.
Pauline, un dernier mot.
Effectivement, le jeu des masques en fait qu'on retrouve dans les effets spéciaux, c'est-à-dire beaucoup de ces personnages ont des masques, que ça soit des masques de peau, des masques d'os.
Plusieurs masques parfois en
voilà.
Plus, il y a plusieurs
couches. C'est un peu Scooby-Doo, mais ouais. En tout cas derrière, on ne sait pas qui est dessous, une jeune fille, un méchant. Un autre animal, bref, tout ça fait que ça prolonge le suspense.
Et la série est terminée là, elle a fini.
Oui, elle est sur une autre série en ce moment au Japon depuis maintenant quelques années qui ressemble exactement à Dorohedoro, que ce soit en termes de dessin, mais dans l'espace et avec pareil une narration comme ça extrêmement libre.
D'accord, et bien donc c'était Dorohedoro, là c'est le tome 1 pardon, qui vient de sortir, une série de la mangaka Kyu Hayashida, c'est chez Kao Edition, et puis les autres tomes vont sortir au fur et à mesure, j'imagine, c'est ça ?
Oui, c'est chez Soleil.
Soleil, pardon, ouais. Excusez-moi.
Kao Edition, c'est la réédition en fait qui porte
ouais,
ce nom-là.
C'est ça, pardon. Pauline Croquet, Fausto Fasulo, merci beaucoup d'être venu nous parler de manga et à très bientôt, évidemment. Toutes les références, toutes les infos sont sur la page des Midi de Culture sur le site de France Culture, et avec vous qui nous écoutez, maintenant c'est à vous de vous faire une idée.